Bonjour à toutes et à tous. Retourner à l'école. Ben évidemment qu'il faut retourner à l'école. Il faut retourner à l'école maternelle, il faut retourner à l'école primaire, il faut retourner au collège, il faut retourner au lycée. Mais retourner à l'école, dans quelles conditions, à quel risque et qui doit assumer ces risques? Alors, c'est une redoutable question qui ne se pose pas seulement aux parents, mais qui se pose aussi aux enseignants, qui est finalement la question de l'obéissance à des consignes ou pas, même si ces consignes sont flous et contradictoires, selon qu'on écoute Emmanuel Macron, Édouard Philippe ou Jean-Michel Blanquer. Alors, question posée à nos deux invités d'aujourd'hui, qui sont deux enseignants. Fanny Lenévez, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes institutrice de maternelle dans le Val-de-Marne et vous êtes aussi l'auteur d'un texte récent titré « Sans équivoque, 100 mois le 11 mai », texte qui a été publié dans l'espace blog de Mediapart. Avec vous, Olivier Vincent, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes professeur de lycée professionnel à Marseille, professeur de lettres et d'histoire. Et donc, avec tous les deux, on va s'interroger sur la communication officielle qui est faite sur cette rentrée du 11 mai. Mais auparavant, je voudrais qu'on revienne un peu sur le passé, sur la manière dont tous les deux vous avez vécu ces semaines inédites dans une pratique professionnelle d'enseignement à distance dans le confinement général. Alors, vous, Fanny Lenévez, avec des collègues enseignantes, vous avez carrément fondé une chaîne YouTube dans laquelle vous avez mis en ligne un certain nombre de cours que vous avez fait en téléenseignement à vos classes de maternelle. Alors, on va d'abord suivre un bout de cours de maths.
Alors, vous allez bientôt devenir comme les maîtresses de maternelle. Hein. Vous allez commencer à tout garder à la maison parce que aujourd'hui, je vais vous demander de garder les boîtes d'œufs pour faire des mathématiques. Alors, je vais vous expliquer. Donc, on va commencer par le plus simple et peut-être le plus courant, la boîte de 6 œufs. Donc, dans cette boîte, votre premier travail, ça va être de mettre une chose dans chaque alvéole. Un objet dans chaque trou. Un seul objet. Hein, on peut prendre ce qu'on a à la maison. Bon, nous, on a des pompons. Je suis pas sûre que tout le monde ait des pompons, mais vous prenez les objets que vous avez à la maison. Si on les dispose un par un avec une pince, eh ben, on peut aussi travailler la motricité fine en même temps. Et le geste qui nous sert, vous vous rappelez, à apprendre à bien écrire.
Ça s'est construit comment, finalement? J'imagine que, évidemment, comme tout le monde, vous étiez à 100 lieues d'imaginer, avant le confinement, que vous auriez à faire à adapter votre pratique, on va dire, de cette façon-là. Comment ça s'est construit, cette manière de travailler?
En fait, dès l'annonce qu'on a reçue en même temps que tous les Français un jeudi soir, on s'est mis en action tout ensemble au sein des équipes pour essayer de trouver des solutions. Donc, on a assez peu dormi, particulièrement dans les premiers temps. Notamment, moi, la nuit de jeudi à vendredi, ça a été une succession d'inquiétudes, de questions, de solutions à trouver. Donc, dès le vendredi matin, on a créé pour toutes les classes qui n'en avaient pas des blogs. On a créé des espaces de travail partagés et collaboratifs. Et dès le dimanche, on s'est dit qu'en fait, les outils institutionnels ne tiendraient probablement pas la charge, notamment en termes de nombre de connexions. Et dès le dimanche matin, donc avant le premier jour d'école à la maison, moi, j'ai pris la décision de créer cette chaîne YouTube en me disant que, en s'appuyant sur quelque chose de solide comme YouTube, on aurait au moins la chance que les parents puissent accéder aux informations que nous, on veut communiquer. Donc, dès le lundi matin, dès le 16 mars, j'ai publié une première vidéo pour dire aux enfants « On est là, on restera à vos côtés, je vais continuer d'être votre maîtresse, même si je suis loin de vous, je vais continuer de vous lire des histoires, je vais continuer de vous chanter des chansons. » On reste là. Voilà, donc ça, c'était un message très important parce que, en fait, pour nous, c'est pas les vacances et on n'a pas été contents et contentes de cette annonce-là. Moi, j'ai plein de moments où je suis très triste d'être loin de mes élèves et où, leur bien-être, la manière dont ils se sentent dans leur famille, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Donc, on a fait tout ce qu'on pouvait pour mettre ça en place.
Vous les avez tous gardés tout au long du mois d'avril ou il y en a certains que vous avez perdus en route?
Dans chacune des classes, on en a perdu entre guillemets un ou deux, mais on est assez surprise parce que des fois on a des enfants dont on n'a pas de nouvelles qui réapparaissent. On comprend aussi complètement que le quotidien des familles et les particularités qui sont liées à la situation font que peut-être que ça passe à l'arrière-plan, surtout sur des enfants de maternelle quand on a plusieurs enfants scolarisés. Mais globalement, on a quand même maintenu le lien, et notamment grâce à cette accessibilité que permet YouTube.
D'accord. Alors, on vient d'assister au cours de maths. Alors, les enseignements sont très variés, hein. On va maintenant assister à un cours d'une des institutrices qui ont travaillé avec vous. Donc, maîtresse Émilie, parce que vous, c'est maîtresse Fanny, hein, sur la chaîne.
Oui.
Mais donc, il y a aussi maîtresse Émilie. Et là, on est dans un cours de... Alors, on va dire à mi-chemin entre l'actualité et les travaux manuels.
Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau mercredi bricolage. Alors avant de vous lancer le défi du jour, on va regarder vos productions des défis qu'on vous a lancés pendant les vacances. Alors là, on félicite Anaïs qui a décoré le rouleau de papier toilette avec...
La pâte à modeler.
Très bien, on continue. C'est Anaïs qui a fait un...
Carave.
Pour toute la classe 8. Oui. Anaïs, on pense très fort à toi.
Oui.
Aujourd'hui, vous l'avez peut-être deviné, on va vous demander de fabriquer un masque. Enfin, vous proposer de fabriquer un masque. Anna, est-ce que tu peux nous montrer le masque que tu as fabriqué ?
Une licorne.
Une jolie licorne. Alors, qu'est-ce que tu as utilisé ? Des assiettes en carton qu'on a retrouvées au fond d'un placard.
Des assiettes en carton. J'ai utilisé du papier à paillettes, un stylo, des fleurs.
Des feutres.
Des fleurs que j'ai dessinées, que j'ai coloriées et que j'ai aidé à découper.
Exactement. Alors avec le matériel qu'on trouve à la maison, on cherche un modèle sur internet.
J'ai mis un fil, un petit ciseau.
Et voilà.
Un feutre et des paillettes.
Bravo, et ça nous a occupé plusieurs heures. Alors on n'est pas obligé de le faire en une fois, c'est une activité que l'on peut faire le week-end. Un petit peu, on arrête, on reprend. Et puis ça permet...
Par exemple, on peut le reprendre le lendemain.
Exactement. Merci Sacha. Les copains, on vous souhaite un joli mercredi. On se retrouve demain pour un nouveau défi. On vous embrasse et on vous dit à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Bon, vous savez que c'est super impressionnant, hein. C'est super impressionnant. Mais oui, la créativité, la joie de vivre, la rapidité d'adaptation à la nouvelle situation, la capacité d'intégrer évidemment ce qui va devenir notre compagnon pendant de longs mois et de longues années, c'est-à-dire le masque, de l'intégrer d'une manière comme ça joyeuse, quoi, à l'univers des enfants. C'est l'idée d'intégrer le masque, par exemple, à l'enseignement, c'est quelque chose dont vous avez discuté entre vous ?
Alors, on discute beaucoup, et c'est aussi ça, c'est là-dedans aussi qu'on a trouvé de la richesse dans cette école à distance, c'est que, au sein des équipes, on se parle beaucoup. Ma collègue Émilie, on s'appelle plusieurs fois par jour, on discute des sujets, on discute des approches. Des fois, ça, c'est arrivé que je propose quelque chose et puis qu'elle me dise, ça, je trouve que tu aurais pu l'amener comme ci ou comme ça, qu'on ait une vraie réflexion, en fait, sur cette fameuse pédagogie à distance en équipe. C'est pas évident, mais on le fait avec beaucoup de plaisir.
Vous allez nous dire que vous discutez presque plus à distance comme ça qu'en temps ordinaire ?
Ça dépend des équipes, mais c'est vrai que là, l'engagement que nous, on a fourni autour de cette chaîne, et puis c'est vrai que moi, je me suis retrouvée un peu dans une position de mettre en lien les gens, de gérer un espèce de planning. Donc, c'est vrai que oui, ça a été riche. Après, dans les écoles, dans notre quotidien, on a quand même des journées qui sont certes courtes pour beaucoup de Français, mais qui sont très denses. Et donc, c'est vrai que là, on a peut-être aussi un peu plus de temps pour se poser par moment et réfléchir à ce qu'on va faire.
De ce que vous savez, votre petit groupe constitue un cas unique où il y a énormément d'enseignants de maternelle qui, comme ça, ont développé dans leur petit groupe, dans leurs équipes, des solutions incroyablement innovantes et créatives.
Il y en a énormément. Il y en a énormément, que ce soit des gens qui utilisent la vidéo, qui le fassent en équipe ou seul. On a des enseignants qui font des cours en visio à des enfants de 3 ans. On utilise des outils technologiques qui sont complètement nouveaux pour beaucoup d'enseignants, des padlets, des Geniali, des choses pour mettre en forme l'information qu'on transmet aux parents de manière ludique et utile pour eux surtout.
Olivier Vincent, comment ça s'est passé pour vous ces dernières semaines ?
Alors ces dernières semaines, le travail donc a continué. Bon, c'est extrêmement difficile avec un public de lycée professionnel, hein, souvent qui a des difficultés, des grands scolaires, qui est assez peu connecté aussi, avec la question sociale qui s'est posée de façon très très grande, hein, pour nous. Il y a tout un travail qui a été fait en équipe justement à l'échelle des collectifs d'enseignants pour essayer de répondre aussi à ces questions-là. C'est passé par exemple par le redéploiement de matériel numérique, par la distribution de colis alimentaires, hein. Certaines familles vraiment souffrent de la faim aussi, et toute cette question sociale, elle a été prise en charge aussi par les établissements. Pareil, comme Fanny, je note vraiment un espèce d'engagement et de surengagement des collègues dans cette période, des collègues qui en très peu de temps ont dû se former sur des outils qu'ils ne maîtrisaient pas, sur leur propre matériel, en un temps relativement record, hein, avec des outils institutionnels évidemment qui fonctionnaient pas forcément au début, notamment les ENT qui étaient saturés.
Alors les ENT, vous pouvez dire en un mot de quoi il s'agit ?
Environnement numérique de travail, ce sont nos plateformes, hein, globalement, qui permettent la communication entre les familles et les élèves.
Qui ont été saturés, vous n'avez pas pu utiliser ?
Qui ont été saturés, hein, effectivement, entre lundi et mercredi, même jeudi, hein, donc. On a été obligé finalement de trouver d'autres outils, notamment des groupes de discussion. Pour nous, en lycée professionnel, l'enjeu, il était vraiment de maintenir le lien, hein, et le lien aussi affectif avec nos élèves.
Plutôt que de donner des cours à proprement parler, c'est ça que vous
voulez dire ? Alors, disons que la première semaine, on était dans cette injonction d'institution, hein, où il fallait la continuité pédagogique. En lycée professionnel, honnêtement, on a très vite vu qu'il s'agissait plutôt d'une discontinuité pédagogique, hein, où des élèves ne répondaient plus, étaient confrontés à un ordinaire qui est compliqué, et donc on a essayé d'avoir un diagnostic assez fin à l'échelle toujours des collectifs enseignants et des équipes pour avoir un diagnostic très précis, hein, combien d'enfants dans la famille, combien d'enfants dans la chambre de l'élève, un diagnostic des outils numériques, la question de la promiscuité, comme je le disais, enfin voilà, essayer d'avoir comme ça un diagnostic très fin de chaque situation pour essayer d'ajuster au mieux notre réponse pédagogique. Hein, voilà. Mais très rapidement, la question sociale a rattrapé la question pédagogique.
Alors, juste à propos de la question sociale, Fanny, je disais que vous êtes dans le Val-de-Marne, alors vous êtes plus précisément à Fresnes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Fresnes, c'est quel type de milieu ?
Ah bah c'est une ville qui a quand même différents types de milieux. On peut pas déterminer comme ça que c'est une ville favorisée ou défavorisée, mais on travaille dans des quartiers où on a des familles qui sont dans des situations de difficultés sociales, qui ont des problématiques d'emploi, et notamment la question de la cantine. On sait que c'est un souci pour un certain nombre de nos familles, la disparition avec l'école de la cantine, et donc de tarifs qui permettaient aux familles de nourrir leurs enfants correctement. Alors, ça nous pose question.
La cantine, on va en parler, parce qu'on va maintenant parler effectivement de la perspective de réouvrir pour de vrai, en réel, les établissements scolaires, perspective annoncée pour le 11 mai. Alors, annoncée avec un certain nombre d'hésitations de la part du gouvernement, hésitations qu'on peut comprendre d'ailleurs, puisque c'est quand même un événement sans précédent qu'il va falloir organiser et gérer. Alors, au titre de ces hésitations et de ces flous, je voudrais qu'on écoute deux interventions du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Ici, par exemple, il est interrogé sur la question du port du masque par les élèves dans les établissements au moment de la réouverture. C'était le 14 avril.
Jean-Michel Blanquer, est-ce que les enfants pourraient être amenés à porter des masques ? Ce qui peut être assez, disons-le clairement, traumatisant pour les jeunes enfants.
Alors, nous n'excluons pas ça à ce stade. Là aussi, ça fait partie des décisions qui seront prises en consultant les autorités sanitaires et après avoir échangé avec les uns et les autres. En tout cas, nous ne l'excluons pas à ce stade. Mes grands objectifs, c'est évidemment d'abord la protection des personnels et la protection des élèves. Cela va de soi.
Bon, alors on a vu que depuis, les choses se sont précisées, puisque pour vos classes, à vous, par exemple, Fanny, le masque sera prohibé dans les classes de maternelle. Et après, c'est plus les choses varient au fur et à mesure qu'on est dans des niveaux plus élevés. Et sur la question de la cantine, Jean-Michel Blanquer, interrogé le 29 avril.
Est-ce que les enfants devront apporter leur repas à l'école? C'est ce que recommande le Conseil scientifique, Jean-Michel Blanquer.
Alors, c'est une possibilité qui est ouverte. On va avoir là aussi tous les cas de figure. La question de l'alimentation, c'est-à-dire la question du déjeuner, elle est fondamentale parce qu'il y a une des raisons pour lesquelles c'est important de réouvrir les écoles, c'est que pour certains élèves, la cantine, c'est fondamental dans leur vie alimentaire. Et donc, le Conseil scientifique a recommandé plutôt que les repas aient lieu dans la classe. Alors, dans d'autres endroits, la cantine peut tout à fait respecter les règles sanitaires, notamment si on organise les flux pour que ce soit des petits groupes qui aillent à la cantine. Donc c'est forcément des horaires différents de ce qu'on connaît habituellement. Je sais que certaines communes m'ont dit qu'elles étaient tout à fait capables d'organiser la cantine de cette façon-là. D'autres organiseront plutôt le fait de déjeuner dans la classe. Parfois, on demandera aux élèves de venir avec leur propre boîte pour déjeuner, comme ça se passe dans certains pays. Et là, ce sera commune par commune et ensuite école par école que cela se décidera.
Alors, Fanny Le Névez, vous avez écrit « Le 11 mai, ce sera sans moi ». Pourquoi « Le 11 mai, ce sera sans vous » ?
En fait, mon objectif initial, c'était vraiment d'interpeller. Je me suis ralliée à cette formule qui existait déjà, que j'ai pas inventée, avant tout pour interpeller. C'est vrai que, au fond, jusqu'au bout, je me dis, est-ce que vraiment je suis sûre? Je défends un propos qui est très affirmé et qui, à mon sens, est assez argumenté. Mais je me pose encore plein de questions et même si j'affirme que moi je n'irai pas.
Ça veut dire quoi? J'affirme que je n'irai pas. Vous n'irez pas?
Je n'irai pas. Non, je n'irai pas. Non, vous je n'irai pas dans ces conditions. Je suis prête à perdre mon salaire. Je suis prête à. Je ne peux pas me projeter dans les conditions actuelles qu'on nous présente et notamment qu'on a découvertes hier soir. Je n'arrive pas à me projeter dans des conditions qui respectent suffisamment les enfants avec lesquels je travaille. Ça vient en contradiction avec toutes les valeurs pour lesquelles je fais ce métier.
Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Qu'est-ce qui fonde de votre part une décision aussi forte et irrévocable?
Moi, ma première inquiétude, c'est l'état psychologique, au-delà de l'état de santé des enfants, parce qu'il y a beaucoup de questions sur ces enjeux scientifiques au niveau de la contamination des enfants. Moi, ma problématique en tant que maîtresse, ma mission numéro un de maîtresse de petite section, c'est que mes élèves, ils se sentent bien à l'école, qu'ils se sentent en confiance et que leur sécurité affective et émotionnelle soit préservée un maximum, notamment par moi, dont c'est la mission. Et en fait, je considère que les règles dont on nous parle actuellement ne me permettent pas d'accomplir ma mission de maîtresse d'école de petite section. Parce que ma manière de transmettre et ma manière d'apprendre et qui est la manière de tas d'enseignants de France, elle passe par le contact, elle passe par l'échange et elle passe aussi par la possibilité qu'ont les enfants d'apprendre tous ensemble. Avec ce qu'on nous dit en ce moment, ça me paraît impossible.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une consigne? Alors après, je vais donner la liste des consignes parce que je pense que ça vaut le coup de la donner, non pas exhaustive, mais quand même en détail. Mais est-ce que vous pouvez me donner l'exemple d'une consigne dont la simple lecture vous a fait dire « mais non, c'est juste pas possible, quoi ».
Dans le préalable de ce document, de ce fameux protocole sanitaire, une des premières règles qui est énoncée, c'est la distanciation physique. Personnellement, même avec mon expérience et l'expérience de tous mes collègues, on est tous et toutes incapables de dire comment on va pouvoir préserver la distanciation physique entre des enfants de 3, 4, 5 ans, surtout s'ils sont 15 par classe, comme on nous l'annonce maintenant. On avait parlé de 5, de 10. Il semblerait qu'aujourd'hui, on soit à 15 aussi sur les maternelles. Concrètement, c'est absolument impossible. À moins de nous transformer en garde, à moins de nous demander de devenir autre chose que des enseignants.
Autre chose, c'est-à-dire quoi?
Des gardiens, je sais pas. Je sais pas comment on dit à un enfant de 4 ans. Mon fils, il a croisé par hasard son meilleur ami dans la rue qu'il a pas vu depuis 6 semaines. Mais vous imaginez ce que ça représente pour un enfant de 4 ans de retrouver ses copains? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire non, t'as pas le droit de le prendre dans tes bras. Non, t'as pas le droit de partager ton jouet. Non, tout ce qu'on leur apprend depuis le début de l'année, au quotidien, tout ce qui fonde notre manière d'enseigner va être complètement remis en question. Donc, je ne vois pas comment on peut enseigner. Si on veut qu'on garde, disons-nous qu'on doit garder.
Alors, en tant que non pas enseignante, mais mère, qu'est-ce que vous avez dit à votre fils qui a rencontré son meilleur copain dans la rue? Vous lui avez dit
alors,
quoi?
Ben, je lui ai dit, ne t'approche pas, attends un peu, ne touche pas. Mais évidemment, au bout de 5 secondes, ils couraient en rond l'un après l'autre parce qu'ils étaient tellement heureux de se retrouver. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font en temps normal. Hein. Mais ils étaient tellement contents de se voir. Ça fait des semaines et des semaines qu'ils se réclament l'un l'autre. Comment on va contenir cet élan-là qui est un élan positif, qui est... je ne sais pas.
Alors, quand on parle de ces règles, il faut bien savoir de quoi on parle. Donc, il s'agit d'un protocole sanitaire de l'éducation nationale, qui fait une 60aine de pages, qui a été publié ce matin jeudi, par Le Monde, qui commençait à fuiter, je crois, dans les groupes de discussion d'enseignants depuis hier. Alors, fortement inspiré par les recommandations du Conseil scientifique, hein, qui sont parues il y a quelques jours et dont on parlait sur Arrêt sur Image. Alors, je ne vais pas citer les 60 pages, mais je veux dire, la lecture quand même des consignes est vertigineuse. Alors, évidemment, maintenir une distance d'un mètre entre tous, vous l'avez dit, à tous les moments de la vie scolaire, c'est-à-dire en classe, dans les couloirs, dans la cour de récréation, aux toilettes, au réfectoire, partout. Masque obligatoire pour les enseignants et pour les personnels au contact des enfants. Lavage des mains, alors attention, lavage des mains à l'arrivée, avant et après chaque passage aux toilettes, après la récréation, après s'être mouché, après avoir toussé ou après avoir éternué. Le matériel collectif proscrit, désinfection plusieurs fois par jour des poignées de porte, des télécommandes, des souris d'ordinateur et de tous les contacts partagés. Donc, je sais pas, moi j'ai jamais été instituteur en maternelle, mais ça me paraît juste pas possible, quoi. Et ce qui m'étonne, c'est pas que vous disiez que vous n'irez pas dans ces conditions. Ce qui m'étonne, c'est que vous soyez une des seules à le dire. Franchement.
Alors en fait, là-dessus, moi je lis sur, notamment sur les forums de profs, énormément d'inquiétudes. Je lis des profs qui pleurent tous les soirs depuis qu'ils ont eu les annonces. Donc on est complètement sidérés. Et je pense que c'est ce qui s'est passé déjà quand on nous a annoncé la fermeture des écoles. Comme on apprend les informations en même temps que tout le monde et qu'on a, on bénéficie d'aucune information particulière de la part de notre hiérarchie sur ces points-là, on est dans cet état de sidération. Et en plus, on porte cette culpabilité, notamment vis-à-vis des personnels soignants, de se dire, eux, ils sont allés sans se poser de questions, sans interpeller l'opinion publique. Et donc, pourquoi les profs n'iraient pas? Et cette question-là, pour moi, elle est assez centrale. C'est que, en fait, ce qu'on a demandé aux soignants, c'est de sauver des vies. Ce qu'on nous demande, nous, c'est non seulement de ne plus pouvoir faire notre métier d'enseignant, et en plus de porter la responsabilité et éventuellement la culpabilité de contaminer des enfants, de contaminer leur famille. Donc, on est dans cette forme de culpabilité. Et il y a beaucoup de profs, beaucoup d'enseignants qui n'osent pas s'exprimer. Et j'ai assisté hier à une réunion entre enseignants qui partageaient absolument tous le même point de vue. C'est impossible. Et j'ai essayé de leur dire, je pense qu'il faut qu'on parle. Il faut qu'on arrête d'avoir honte de ce qu'on fait. On a fait le boulot. On va continuer de le faire. On est mobilisés. On est des fonctionnaires responsables. Et être un fonctionnaire responsable, c'est aussi dire ce n'est pas possible.
Olivier Vincent, est-ce que... Alors, vous, ça ne va pas se passer le 11 mai, hein, puisque vous êtes en lycée, je le rappelle. Donc, en lycée, si j'ai bien compris, on parle de début juin, c'est bien ça?
A priori, début juin, et en fonction des contextes locaux, donc zone rouge ou zone verte. Hein.
D'accord. Et alors, Oui.
Pardon, même ça, on a du mal à le comprendre parce qu'on se dit pourquoi on considère qu'il est urgent, notamment le Premier ministre a parlé d'un impératif pédagogique. Alors, la maternelle, c'est très important. C'est pas moi qui vais vous dire que l'école maternelle ne sert à rien. Mais si on nous dit que il y a un impératif pédagogique sur des enfants de petite section, je comprends pas qu'on nous dise d'un autre côté, on n'ouvre pas les lycées ou en plus, peut-être que je ne suis pas enseignante en lycée, mais peut-être que les lycéens seraient plus à même de respecter la distanciation physique et les gestes barrières.
Alors, on va se poser cette question-là, mais d'abord, Olivier Vincent, est-ce que vous vous dites, comme votre collègue, non, à ce stade, et compte tenu de ce qu'on me dit sur les conditions de rentrée, je n'irai pas, ce sera sans moi.
Effectivement, le préalable, évidemment, ce sont les conditions sanitaires. Et aujourd'hui, les conditions sanitaires, que ce soit sur la question des masques, par exemple, on sait bien que dans mon établissement, mail très clair du chef d'établissement, nous n'avons pas de masques à l'heure actuelle, nous ne les aurons pas, donc on ne sait pas si on les aura au mois de juin. qui pose tout un tas de questions, on l'a bien vu, c'est la question de finalement l'organisation du travail. Le protocole sanitaire tel qu'il est actuellement, il demande à ce que les équipes réfléchissent à sa mise en place. Et quand on regarde effectivement la liste, l'énumération, on voit bien que tout un tas de choses sont très difficiles à mettre en œuvre. Hein, on a l'impression finalement que ce protocole-là, il a été créé sans concertation avec les enseignants, et on a l'impression que tout un tas de mesures, en fait, ne tiennent absolument pas la route.
Mais ça, là, j'ai envie de dire, vous avez un mois quand même là, hein, puisqu'on parle de début juin. Vous pensez qu'en un mois, c'est pas jouable, ça peut pas se mettre en route?
Bah, c'est très compliqué. Ça demande de la logistique, ça demande une organisation, et ça demande de repenser la gestion des flux, par exemple, de repenser l'organisation du travail. Et à mon sens, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Il y a tout un tas d'éléments qui nous laissent à penser que la reprise au mois de juin va être compliquée. Et puis surtout, reprendre pourquoi? Pour quelle plus-value pédagogique? En fait, la véritable question, c'est celle-là. C'est pourquoi faire? Est-ce que s'il faut reprendre les cours tels qu'ils étaient, est-ce qu'il vaut pas mieux préparer la rentrée, former les collègues à des outils puisque cette situation aussi va durer? Pourquoi pas utiliser ce temps-là aussi pour réfléchir collectivement en équipe pour finalement penser une organisation qui soit pérenne et qui soit opérationnelle au mois de septembre?
Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que alors là c'est la suggestion de s'installer finalement dans le temps long. Dans le long terme, vous partez du principe, arrêtez-moi si c'est pas ça, mais vous partez du principe qu'on en a pour un bout de temps, quand même, l'utilisation de ces nouveaux outils.
Effectivement, c'est ce que laisse à penser la stratégie aussi du gouvernement, une espèce de stop and go, c'est-à-dire, voilà, on déconfine, on reconfine, etc. Et donc, nous, on réfléchit effectivement à ce temps long et on se dit que la question de la logistique, hein, de la commande de matériel, la question des agents, qui va participer à cette organisation en interne dans les établissements. Ça demande une réflexion à la fois.
On peut essayer d'être concret. À votre sens, les enseignants, il faudrait les former en priorité à quoi dans un calendrier idéal?
Ben, je trouve que la question du retour des élèves, elle se pose et du temps qu'on va, par exemple, prendre avec eux pour évoquer la question, leur souffrance psychologique, par exemple. Hein, on a raté finalement le départ aussi en confinement. Aujourd'hui, il faut réfléchir aussi à quel accueil de cette parole-là, quelle prise en charge psychologique, quelle prise en charge sanitaire, sociale, et puis ensuite viendra le pédagogique. Donc, il faut évidemment réfléchir à toutes ces questions-là avec des priorités. Vous savez, il y a des paroles qui sont très fortes. Moi, j'ai sondé mes élèves un petit peu pour leur dire comment vous envisagez l'après. Et j'ai tous les élèves, évidemment, ont très peur. Les familles sont plutôt dans la défiance, et les élèves aussi. Et tous les élèves me font part de leur crainte, de leur stress, de leur angoisse. J'ai même un élève qui m'a dit « Mais monsieur, j'aime bien vos cours, mais franchement, je tiens trop à la vie. » C'est des paroles qui sont fortes, qui sont sensées, qui sont faites de bon sens et qui nous disent quoi? Qui nous disent, en fait, dans un contexte épidémique dangereux, le principe de précaution, en fait, doit s'appliquer. Et ce sont les élèves qui nous disent ça, hein, qui écoutent évidemment les médias, et certains font part aussi de leurs difficultés, véritablement de leurs difficultés, de leur quotidien. Certains élèves ne sortent pas parce que leurs parents ont peur, et donc il va falloir faire évidemment tout un travail de débriefing, comme on fait en fait lorsqu'il y a une crise, un petit peu aussi avec eux. Alors, je ne sais pas si tous les enseignants pourront participer à ce travail-là, mais en tout cas, cette question de l'accueil de cette parole des souffrances psychologiques, il va falloir s'y pencher. Et à mon avis, c'est une question, avec la question sociale, c'est une question absolument majeure. Aujourd'hui, c'est un défi, y compris pour les enseignants, de se former à ces questions-là.
Fanny Lenévette, je vous ai vu hocher la tête quand votre collègue parle de souffrances psychologiques. C'est quelque chose que vous pensez aussi que vous allez devoir, un jour ou l'autre, gérer avec vos classes?
Mais évidemment, et dès maintenant. Et moi, c'est ma première inquiétude, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au-delà des risques de contamination, c'est dans quel état on va retrouver nos élèves. Nous, on a des enfants de 4 ans qui veulent plus sortir de chez eux, on a des enfants qui ont peur, ils écoutent pas les informations, a priori, mais ils ont leurs parents autour d'eux, ils ont l'inquiétude de leurs parents, ils ont peut-être perdu un proche, ils ont peut-être eu quelqu'un, enfin d'ailleurs, nous, on sait que c'est le cas dans une de nos écoles, ils ont peut-être eu leurs parents malades, même juste malades pendant plusieurs jours, qui n'ont pas eu la possibilité de pouvoir s'occuper d'eux, ils ont peut-être des angoisses. Nous, on pense à tout ça et on a l'impression qu'on est un peu les seuls à le faire. On a très peu d'informations là-dessus. Est-ce qu'on va avoir des équipes de psychologues? Comment ça va s'orchestrer? Comment tout ça va se mettre en place concrètement? Parce que nous, on y pense et on s'inquiète de ça, particulièrement sur des enfants de 4 ans. Mais évidemment aussi sur les plus grands.
Vous avez des signes vous laissant penser que le ministère y pense aussi ou pas?
Alors j'ai entendu oui, vaguement.
Olivier Vincent.
Oui, je disais très franchement, depuis le début de la crise, on a l'impression vraiment d'un accompagnement qui est très très limité sur ces questions-là, hein, que ça soit au niveau du ministère et au niveau des autorités académiques. Enfin, nous, à l'échelle des collectifs d'enseignants, on réfléchit à ces questions-là, mais honnêtement, on est plutôt dans un bricolage pédagogique et on est dans une espèce d'engagement aussi pour essayer de ressentir un petit peu ce que sentent les élèves. Je prends un exemple à la voix de mes élèves, j'ai senti qu'à la quatrième semaine, quand je les ai au téléphone, qu'il y avait un basculement parce que ça s'installait dans la durée et on sentait bien que, voilà, des élèves, par exemple, qui ne répondent de moins en moins le matin et qu'on peut joindre l'après-midi. Tout ça, ce sont des signaux qui montrent, en fait, l'impact de ce déconfinement sur à la fois la santé, sur le sommeil, sur le corps et l'esprit de nos élèves, en fait. Et donc, cette question de santé, elle est véritablement préoccupante aujourd'hui.
Cette question de santé psychologique. Et alors, ce qui est frappant, c'est qu'aussi bien dans ce qui apparaît du discours du ministre que dans ce qui apparaît du discours des médias, on a l'impression que ce qui est vraiment premier, c'est l'espèce de défi sanitaire qu'on s'est lancé, comment on va arriver à désinfecter tout ce qu'il faut désinfecter avec le personnel et dans le temps qu'on a pour le désinfecter, ou comment on va maintenir la fameuse distanciation. À l'exclusion de toute autre préoccupation, je voudrais qu'on voit un reportage de TF1 diffusé le soir de la dernière intervention d'Edouard Philippe.
Mesures de distanciation.
Pensez, on ne peut pas se toucher.
Distribution de gel hydroalcoolique et surtout des masques portés par chaque adulte.
Visite de cette salle de classe de maternelle quelques minutes après l'intervention du Premier ministre. Le maire de Béthune avait anticipé. Ici, l'espace a été configuré pour accueillir 15 enfants, chacun à sa petite table, pour respecter les distances.
On avait commencé à mettre des repères avec des tables éclatées, des chaises éclatées, et donc une salle, j'allais dire, complètement désinfectée.
Désinfecter est le maître mot ici. Ces employés de la ville de Béthune nettoient tout, les murs, les plafonds, les sols et même les crayons, un par un.
Ils désinfectent effectivement tout ce que les enfants ont pu toucher, donc que ce soit le crayon, le cahier, les livres également.
Au restaurant scolaire, un début d'organisation a été imaginé avec des élèves qui ne seraient plus face à face pour déjeuner.
Bon, alors ce que nous dit la TF1, ben voilà, il y a des endroits où c'est possible. Donc, sous-entendu, bah, tous les autres, démerdez-vous. Comment vous réagissez, Fanny Lenévez?
Bah, déjà, peut-être qu'à certains endroits, c'est possible, mais c'est possible de faire quoi, en fait? Parce que moi, en petite section, mes enfants, ils sont pas assis chacun à une table. Juste, si j'ai 2 minutes pour vous expliquer un petit peu. Le matin, ils arrivent, ils vont dans les coins-jeux. Donc ça, ce qu'on appelle les coins-jeux, c'est la cuisine, la partie où il y a des petits bébés qu'on peut coucher. Ça, tout ça, ça va être condamné. Parce que c'est des choses qui sont partagées, donc tout ça, ils ne peuvent plus le faire. Ensuite, on se met à faire des ateliers en petits groupes. Mais on est 2 adultes dans la classe, donc ça veut dire qu'on ne peut pas prendre 2 groupes de 15 enfants. En général, on a des groupes de 5-6 si on veut vraiment bien travailler. Pendant ce temps-là, les autres, ils sont dans les coins-jeux ou alors ils sont sur des activités autonomes, à d'autres tables ou à d'autres endroits de la classe. Donc en résumé, les enfants, ils circulent en permanence. Et même si vous leur dites « reste assis là et fais ton travail », c'est pas parce que je suis une mauvaise maîtresse qu'ils ne le font pas. Donc, il y a plein de moments où ils vont s'interrompre dans leur travail, ils vont venir me voir, ils vont aller voir un copain, ils vont ramasser quelque chose par terre. Donc déjà, cette idée même, cette scène qu'on voit dans le reportage de la classe avec les petites tables individuelles posées, elle correspond à rien de ma réalité. Déjà. Donc moi, je vais faire quoi? Je vais me mettre sur une chaise d'arbitre de tennis et puis je vais regarder les enfants d'en haut et à quoi ça va ressembler? On se retrouve, on a aussi des moments de regroupement où on se retrouve tous ensemble dans ce qu'on appelle en maternelle le coin regroupement où les enfants sont assis, tous les uns contre les autres et puis ils écoutent une histoire parce qu'on nous dit ça dans les recommandations, on nous dit bah, en fait, ce que vous allez pouvoir faire, c'est des mimes, des devinettes et lire des histoires. Alors bon, on le fait déjà hein, dans les écoles maternelles, mais on fait ça sur des temps qui sont quand même court. On ne peut pas faire ça pendant 3 heures de suite. Donc, même aujourd'hui, on se pose concrètement la question entre collègues, qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants? Déjà, on est consciente qu'on ne va pas enseigner, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire vos enfants à l'école? Ça, c'est encore une vraie question.
Alors, vous disiez tout à l'heure, bon, en fait, si vous voulez nous transformer en garde, disez-le franchement, dites-le franchement et transformez-nous en garde. Mais effectivement, est-ce qu'on pourrait pas juger que la gravité de la situation et son caractère inédit justifient que, exceptionnellement, oui, les enseignants gardent les enfants?
Alors complètement, on pourra imaginer politiquement et philosophiquement qu'on réinvente complètement notre métier. Moi, ce que je veux dire aux familles et aux gens qui prennent ces décisions, c'est que il faut qu'on sache quelles conséquences possibles ça peut avoir pour les enfants. Donc qu'on se pose la question, est-ce que le bénéfice est plus important que le risque, notamment le risque psychologique dont on parlait tout à l'heure. Je pense qu'il faut que tous ensemble, on se saisisse de cette question et qu'on prenne une décision collective en ayant les bons paramètres, c'est-à-dire pas en nous faisant croire que, en fait, c'est l'impératif pédagogique la priorité. Parce qu'à ce compte-là, on n'arrivera à rien. On n'arrivera ni à garder correctement les enfants, ni à faire de la pédagogie. Donc, soyons clairs, au moins.
Olivier Vincent, sur cette question, est-ce que alors pour parler comme les ministres, est-ce que la situation n'impose pas aux enseignants de se réinventer?
Sans doute, mais vous savez, les enseignants, depuis le début de la crise, je crois qu'ils sont au rendez-vous, ils font preuve d'une grande conscience professionnelle, ils se sont mobilisés parfois au-delà même de leur propre tâche pédagogique, hein, pour apporter du soutien. Je prendrai juste un exemple, mais c'est important pour qu'on comprenne la situation. Il y a 27 cagnottes établissements à Marseille, hein, pour apporter une aide humanitaire à des familles qui sont en difficulté. Cette prise en charge, c'est la prise en charge de collègues qui ont monter ces cagnottes-là et qui ont créé des collectifs, des associations pour apporter une aide. On va bien au-delà de ce que devrait faire évidemment un professeur, mais en l'absence de réponse institutionnelle, on est bien obligé de se saisir de ces questions-là pour répondre en fait à une utilité. Il y a des intérêts économiques en jeu, on en a tous conscience. Ce qu'on aimerait, c'est d'avoir un discours ministériel qui soit cohérent avec une réalité sur le terrain.
Et qui vous dit quoi? Quel est le discours ministériel que vous aimeriez entendre?
C'est déjà qu'il donne des garanties sanitaires. C'est quand même bien l'essentiel. Le préalable, on l'a dit, c'est la sécurité sanitaire. Je prendrai juste un exemple d'une déclaration du président italien, Giuseppe Conte, qui disait ceci. Raisonnablement, les écoles resteront fermées. Il est très difficile de concilier droit à l'éducation et protection de la santé publique. Voilà un discours et voilà une déclaration qui me semble en fait tout à fait sensé. Le principe de précaution doit s'appliquer en contexte de pandémie tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec une dynamique épidémique qui est extrêmement forte et avec un risque finalement que les écoles deviennent un foyer de recontagion. Donc ça, c'est voilà, on a l'impression en fait.
Et donc non, mais alors pour prendre l'exemple de l'Italie, concrètement, en Italie, la rentrée a été reportée en septembre.
En septembre, alors, sur l'avis de deux conseils scientifiques aussi.
Non mais alors, on va se parler franchement, est-ce que c'est la solution qui, à vos yeux, à tous les deux, aurait été préférable?
Très franchement, je crois que si on veut réussir la rentrée de septembre, il faut se donner le temps de réfléchir à une organisation du travail qui réponde à tous les enjeux, à la fois sanitaires et puis pédagogiques aussi, évidemment, dans un deuxième temps, c'est évident.
Donc Fanny Le Névez, vous dites aussi priorité septembre, ce qu'il fallait faire, c'était attendre septembre?
J'ai du mal, honnêtement, à me positionner vraiment là-dessus parce que moi, je suis pas, j'ai pas de compétences en santé publique pour dire il faut que ce soit le 1er septembre ou il faut que ce soit le 15 juin ou il faut ce qui nous interpelle, c'est le délai en fait, c'est qu'on se dit là le cadrage il va peut-être arriver en fin de semaine, le cadrage officiel était jusqu'à présent prévu pour le 4 mai, donc 7 jours avant la réouverture, on a l'impression d'une précipitation. Et puis vous parliez de l'impératif entre guillemets un peu économique, il faut que ça reparte, il faut que les gens s'y remettent. Mais la proposition qui est faite actuellement aux familles, c'est la proposition d'un accueil partiel. Donc ça veut dire qu'en fait, si on nous dit vous devez garder, parce que l'objectif c'est de relancer l'économie, comment le fait que l'enfant soit gardé un jour, deux jours, une demi-journée, parfois la question des fratries a pas été étudiée. C'est-à-dire que si vous avez deux, trois enfants qui sont pas gardés les mêmes jours, comment vous allez-vous en tant que parent vous organiser pour aller travailler malgré ça?
On peut toujours trouver des situations super compliquées. N'empêche que sur le papier, se dire les enfants pourront retourner un jour sur deux ou un jour sur trois à l'école, ça peut permettre à des parents de se projeter dans une reprise du travail à mi-temps, à tiers-temps, je ne sais quoi.
On aurait pu aussi on aurait pu aussi imaginer autre chose, c'est-à-dire qu'il faut quand même pas oublier que depuis le tout début du confinement, des enseignants et des enseignantes accueillent dans les écoles les enfants des personnels soignants, ça on l'a dit, mais aussi les enfants des personnels de l'aide sociale à l'enfance, de l'administration pénitentiaire, de la police et des douanes. Pourquoi à un moment donné, on n'a pas considéré, alors c'est qu'une option, on peut la critiquer, elle est probablement critiquable sur beaucoup d'aspects, mais pourquoi on n'a pas dit, on va recenser tous les parents qui n'ont vraiment aucune autre solution de garde que de mettre leurs enfants à l'école. Aucune. Et c'est cela qu'on va accueillir à temps plein, en faisant des petits groupes, en rouvrant progressivement des groupes scolaires pour accueillir, parce qu'on voit bien que c'est compliqué. Déjà, c'est compliqué l'accueil de ces enfants. Donc, on pourrait y aller petit à petit en se basant sur ce fameux impératif économique que les gens retournent travailler. Nous, on le comprend, ça. On comprend les enseignants que les gens, ils ont besoin de retourner travailler. Les indépendants, les artisans, les commerçants, les salariés, tout le monde a besoin de retourner travailler. Mais comment on propose un dispositif qui préserve la sécurité de tous et qui, en même temps, est utile vraiment à ces familles? Ça, nous, on ne nous a pas posé la question.
Alors, il y a une autre disposition de cette reprise qui est avancée par le gouvernement, c'est le volontariat, c'est-à-dire que la reprise reposera sur le volontariat des parents. Alors, je voudrais qu'on écoute ce qu'en disait au cours du débat parlementaire, après l'intervention d'Édouard Philippe, ce qu'en disait Jean-Luc Mélenchon.
Voici venu le moment des injonctions odieuses. Vous n'avez pas été précis sur ce point, monsieur le Premier ministre. Les enfants doivent-ils aller à l'école obligatoire le 11 mai ou bien sur la base du volontariat, comme l'a dit votre ministre de l'Éducation nationale? Parce que ça, c'est anxiogène. Des millions de familles se sont dit « qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ?» Voilà ce que les gens viennent de vivre. Comment peut-on demander aux parents d'évaluer le risque d'exposer leurs enfants au danger ? C'est odieux. Oui, c'est odieux. Ils ne savent que faire, les braves gens. Et surtout quand leur décision n'est pas libre, parce qu'on leur dit « il faut maintenant retourner au travail ». C'est d'ailleurs pour ça qu'on commence par les plus petits, parce qu'ils ne sont pas capables de se surveiller eux-mêmes, alors que les plus grands pourraient le faire. Et pour les enseignants, n'est-ce pas odieux de mettre en balance leur conscience professionnelle, leur attachement aux enfants qu'ils éduquent, et leur propre risque, leur évaluation du risque pour eux et pour leur famille. Voilà ce que j'appelle les injonctions odieuses.
Olivier Vincent, est-ce que le volontariat est une injonction odieuse, notamment pour les parents ?
Mais je trouve que c'est très juste, hein, ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Effectivement, ici, on a l'impression que voilà, cette décision-là du volontariat des familles, c'est une mesure, en fait, qui m'apparaît complètement contre-productive et en fait, par un transfert de responsabilité sur les familles, leur demande de résoudre un dilemme qui est absolument en fait insoluble, qui est celui de choisir entre la scolarité de leurs enfants ou la santé de leurs enfants.
Est-ce qu'il y avait une autre solution que le volontariat ? J'ai quand même envie de vous dire, le gouvernement avait prescrit une reprise obligatoire pour tout le monde aurait hurlé aussi en disant « mais comment pouvez-vous imaginer qu'on renvoie nos enfants à l'école sans avoir de garantie sanitaire ?» Et quand bien même la reprise aurait été renvoyée en septembre, il est quand même très peu probable qu'on en ait fini avec la pandémie en septembre. Donc, est-ce que le même problème, ce serait de volontariat ou pas volontariat, serait pas reposé en septembre, Olivier Vincent ?
Disons que moi, je trouve que cette décision, elle montre en fait que l'exécutif n'est pas en capacité d'assumer un choix collectif pour tous, en fait. Or, c'est quand même ce que les citoyens attendent de l'État, qu'il soit en capacité, dans un moment précis de crise sanitaire majeure, de dire si oui ou non les conditions sanitaires sont réunies.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment, il faudra que l'exécutif décide de renvoyer tous les enfants dans les établissements scolaires.
En fait, il me semble que ce sont les autorités sanitaires qui sont en capacité de dire si oui ou non les conditions sont réunies. Ce sont pas les familles et ce sont pas non plus les enseignants, en fait. Et on a l'impression, une fois de plus, que ce sont les familles populaires, qui risquent de payer le prix de cette décision. Notamment parce que ce sont souvent ces parents-là qui sont en première ligne, qui sont obligés d'aller travailler, et en quelque sorte, on a l'impression que c'est eux qui vont payer le prix de cette décision, en fait, très 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 fort, en fait. On a l'impression qu'à l'angoisse de la reprise du travail, on va ajouter l'angoisse de savoir ses enfants à l'école et de savoir s'ils vont pas éventuellement être contaminés. Cette addition d'angoisse, en fait, elle a quelque chose d'assez insupportable pour les familles, pour les enfants et pour les collègues, hein, vraiment, vraiment.
Et notamment parce que les familles populaires ont moins accès au télétravail que les familles plus aisées, comme le montrent toutes les statistiques.
Évidemment,
tout à fait.
Sur le volontariat, Fanny Lenévez. Est-ce que ce n'était pas le moins pire des choix, le volontariat?
En soi, je vous rejoins quand vous dites on ne va pas forcer les gens à mettre leurs enfants à l'école, évidemment. Mais parler d'un côté d'impératif pédagogique et de l'autre côté dire, en gros, ça va être comme vous voulez, parce que d'ailleurs, parlons-en, vous allez pouvoir mettre vos enfants ou ne pas les mettre. Mais comment ça va s'orchestrer pour nous, les enseignants? C'est-à-dire que ça va être à la carte, il va y avoir des jours où vous allez pouvoir déposer votre enfant, puis des jours où, en fait, vous allez décider de ne pas le mettre. Comment on va constituer les groupes? Comment on va organiser tout ça? C'est là, il y a un problème logistique. Après, au niveau politique et philosophique, moi je rejoins complètement, c'est pas toujours le cas, ce que disait Jean-Luc Mélenchon et ce que dit Olivier Vincent, c'est qu'on place les familles dans une situation même psychologique que je trouve très difficile. Moi j'ai des copines qui m'appellent pour me dire qu'est-ce que je fais, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de retourner travailler, mais j'ai pas envie de mettre mon enfant en danger et la priorité ça va être de préserver mon enfant. Et je trouve que c'est très dur de faire vivre ça aux familles et qu'en plus c'est pas juste, parce qu'il va y avoir des endroits, comme on se décharge de plus en plus sur les collectivités, il va y avoir des endroits où, par exemple, les mairies, parce que nous, dans notre cas, c'est un enjeu très important, nous, le bâti et un certain nombre de personnels sont gérés par la mairie. Donc, il y a des endroits où les mairies vont pallier aux déficiences, au manque de l'État, et il y a des endroits où les mairies ne pourront pas pallier. Et parfois, elles décideront de ne pas ouvrir, et parfois, elles décideront d'ouvrir quand même. Le fait qu'il y ait cette inégalité sur le territoire, moi, ça vient en contradiction avec mes principes fondateurs autour de l'école républicaine.
Moi, il y a un truc que je n'ai pas bien compris. Est-ce que le chef d'établissement aura la capacité de dire « moi, je n'ouvre pas » parce que je ne suis pas en état d'ouvrir? Et qu'est-ce qui se passera si un chef d'établissement dit ça? Est-ce que ce point est clair pour vous deux?
Alors nous, déjà, on n'a pas de chef d'établissement. Nous, on a des directeurs et des directrices d'école et qui sont pas nos responsables hiérarchiques. Donc nous, tous les enseignants, notre hiérarchie, c'est l'inspection, hein, le premier niveau. A priori...
Qui peut dire éventuellement, là, j'ouvre pas parce qu'on ne peut pas le faire?
A priori, pas les directeurs, parce que sinon, il y en aurait un certain nombre qui se positionneraient très clairement pour dire « on n'ouvre pas ». Nous, ce qu'on comprend actuellement, c'est que le seul levier, il vient des mairies. C'est-à-dire que si le maire ou la maire, dans notre cas, décide de ne pas ouvrir les écoles, là, la problématique est réglée. C'est aussi ça que je trouve injuste. D'accord. C'est qu'on va dépendre politiquement, surtout dans cette question de l'entre-deux-tours. Il y a des maires qui, je pense, vont jouer aussi des enjeux politiques autour de cette réouverture ou non des écoles. Donc, c'est quand même très compliqué.
D'accord, c'est bien ça. Donc, le ou la maire aura la possibilité de dire « Non, telle école, je n'ouvre pas parce que je n'ai pas les locaux, je n'ai pas le personnel. » En revanche, là, oui, je trouve ça jouable. C'est ce qui va se passer.
Alors ça, on ne sait pas. On a vu qu'il y a des maires qui sont positionnés pour dire « Moi, dans mon école, je ne rouvre pas. » Ou alors, il y a même des villes autour de nous où ils ont décidé de ne pas rouvrir les maternelles. Ce qui aurait pu être une option envisagée même au niveau national, hein, pour remobiliser les enseignants de maternelle, pour aller faire des plus petits groupes sur les enfants de primaire, par exemple. Donc,
Alors, on parlait des médias, on a vu un extrait du journal de TF1. Je voudrais qu'on termine avec un autre extrait qui a pas mal fait causer sur les réseaux sociaux et notamment dans les milieux des enseignants, commentant effectivement les réticences d'un certain nombre d'entre vous à rouvrir dans les conditions sanitaires actuelles. L'animateur de CNews, Pascal Pro, ne vous l'a pas envoyé dire, on l'écoute.
Quand j'entends les professeurs, oui, qui ne vont pas aider Emmanuel Macron, hein, le 11 mai, parce que les profs, ils vont pas l'aider, dire qu'ils ne veulent pas rentrer, parce que la sécurité, parce que la sanitaire, etc. Il y aura toujours des bonnes raisons pour ne pas rentrer. Oui, alors je vais me faire, si pas des amis en disant ça, mais globalement, les profs, il y a un moment, faut y aller. Le 11 mai. Mais je vous dis qu'ils ne l'aideront pas. Les enfants, ils sont asymptomatiques et ils transmettent peut-être pas le virus. Donc, faut y aller. Il y a toujours une part de risque.
Enfants, c'est aussi les profs.
Et c'est comme les postiers, disons-le. Les postiers qui sont à la poste, qui sont arrêtés, il y a quelque chose qui... Mais oui, mais c'est la fonction publique.
Alors, Olivier Vincent, faut y aller.
On a un bel exemple de caricature, effectivement. Et de toute façon, vous savez, on ignore toujours le métier de l'autre, en fait. Hein. On est vraiment dans une méconnaissance de notre métier, qui est dû en partie d'ailleurs parce qu'une partie de notre travail est invisible, effectivement. Hein, souvent, on prend la métaphore de l'iceberg pour comprendre le travail de l'enseignant. En fait, il y a certes les 18 heures de cours en présentiel, mais il y a toute la partie préparatoire. Toutes les études aujourd'hui montrent que les enseignants travaillent 40 à 42 heures par semaine. Hein, on fait partie des professions qui s'investissent depuis le début de la crise. On s'est surengagé vraiment, je trouve, hein, pour essayer de se former, derrière, de s'auto-former, ce discours-là, pour les enseignants, il est absolument insupportable. Non,
mais vous pensez que derrière le « faut y aller » de pro, il y a l'éternelle question des horaires des profs, des vacances des profs, etc.
Bah, c'est bien évidemment, on est dans le cadre de stéréotypes autour de la profession, voilà, qui circulent depuis très très longtemps, et de la fonction publique d'ailleurs. Hein. Or, aujourd'hui, qui sont les personnes qui font tourner justement certains services? Le service d'éducation, les services de santé, ce sont les personnels de l'éducation nationale et ce sont aussi ces services-là qui auront besoin en septembre d'agents, de moyens pour pouvoir justement continuer ce service-là.
Fanny Le Neves sur l'injonction, faut y aller.
Alors bon, moi évidemment, hein, ça me met extrêmement en colère d'entendre ce genre de discours. Moi, je lui dirais une chose à ce monsieur pro, qu'il vienne. Qu'ils viennent dans nos écoles, qu'ils viennent dans nos classes et qu'ils viennent voir comment ça va se passer, cette fameuse reprise. Moi, je l'accueille. Il n'y a pas de problème. Je trouverai des collègues pour l'accueillir.
Et pour lui. Il est bienvenu à Marseille aussi, hein.
Et pour lui montrer un petit peu ce que ça représente. Parce que jouer toujours, hein, sur cet argument populiste qui, franchement, est dégoûtant, pour ne pas dire pire, c'est facile, mais ça correspond pas à la réalité. On n'est pas des feignants, on n'est pas des lâches. On veut faire les choses le mieux possible pour les enfants et pour leurs familles. Et puis pour vous tous, en fait.
Allez, merci beaucoup. On accueille maintenant Laëlia Véron qui nous a regardé attentivement depuis la coulisse et on est très curieux de savoir quels sont ceux de nos mots qu'elle a relevés.
Bonjour tout le monde. Merci Daniel de m'avoir fait un petit signal en disant pour finir, on va poser cette question, comme ça je savais que j'en étais à la fin. Pour revenir sur ce que vous avez dit, alors d'abord, moi je voudrais juste dire un tout petit mot, si je peux, avant de rebondir vraiment sur les mots que vous avez employés, de faire la chronique un peu linguistique, c'est que moi aussi je suis enseignante à la fac et en détention, et juste pour rebondir sur ce que disaient mes collègues, je voudrais juste dire que ces questions-là se posent aussi, même différemment, à la fac, il n'y a pas de question pour l'instant de reprise des cours en présentiel, mais on a eu ces problèmes de continuité pédagogique avec le fait que, contrairement à ce qui est dit, il y a des étudiants, même à la fac, qui n'ont pas Internet ou qui n'ont Internet que par leur téléphone. C'est très, très compliqué de les faire travailler. Et pour la prison, n'en parlons pas, puisque personne n'en a rien à faire de l'école en prison. Ça a été le bricolage pédagogique à fond et on ne sait pas du tout ce qu'il en est. Des questions de rentrée du 11 mai, là, on en parlait un peu pour les établissements, mais normalement, il y a aussi de l'enseignement secondaire en prison et pour la question des examens de l'enseignement secondaire, eh ben, on bricole. Donc voilà, je voulais quand même dire ça. Pour revenir ensuite sur ce que vous avez dit, moi, j'avais envie de revenir sur une situation de parole qui est l'injonction contradictoire. Parce que Mélenchon a parlé d'injonction odieuse. Et je pense qu'au point de vue du point de niveau vraiment énonciatif de la prise de parole, quand je vous ai écouté, quand je pense à la prise de parole des profs dans cette situation, on peut parler d'injonction contradictoire, que ce soit sur quand vous parlez de l'enseignement à distance, la fameuse continuité numérique pédagogique, ou que ce soit en présentiel, parce qu'il y a une contradiction tout simplement entre les missions que les profs sont censés avoir, le mot mission que vous avez employé, et ça fait cette injonction contradictoire. Injonction entre quoi et quoi? Tout simplement entre le fait de dire que en tant que prof, eh ben, on arrive à gérer et on arrivera à gérer, on arrivera à enseigner. C'est un discours qu'on a envie de tenir parce que de fait, on essaie, on y croit. Puis c'est pour aussi contrer tous les discours stéréotypiques dont vous avez parlé, de profs qui ne font rien, de caricatures, de feignants, de grévistes, de tout ce que vous voulez. Et en même temps, la nécessité de dénoncer la situation, de dire que non, tout ne va pas bien et qu'il y a un danger. Et voilà, donc c'est vraiment cette injonction contradictoire. Et si je la détaille un peu, par exemple sur la continuité numérique, à la fois on est entre le fait de dire que c'est pas notre métier, que nous on veut faire du présentiel, qu'on n'a pas envie d'enseigner via des écrans, que ça pose plein de problèmes, et en même temps on doit défendre tout le travail qu'on a fait pour dire que justement on n'a pas arrêté de bosser, que on n'a pas été payé pour rien. Fanny, vous disiez voilà, pas avoir honte, on n'est pas des feignants, on n'est pas des lâches, on est mobilisés, on est des fonctionnaires responsables. Tout ça, c'est pour contrer ce discours négatif-là. Et le problème, c'est toujours le problème de l'injonction contradictoire. Dès qu'on défend un discours, eh ben, on risque de se faire récupérer. Et donc, on est obligé d'essayer de le stabiliser en allant de l'autre côté. C'est que le problème de ce discours-là, on veut défendre notre travail, c'est qu'il peut être récupéré politiquement d'une manière qui nous pose problème. Regarde, Daniel, même toi, tu parlais de solutions incroyablement innovantes et créatives. Le problème, c'est que moi, ce discours-là, quand je l'entends, j'ai l'impression d'avoir, quand on nous vante les formations par Microsoft, quoi, pour l'enseignement à distance. Et on sait très bien les conséquences que ça peut avoir. Ça va être, supprimons donc les postes de prof, ne faisons plus de classe en présentiel, puisque avec nos super outils pédagogiques innovants, vous pourrez faire cours à 500 élèves, par exemple, en amphi, si je pense à la fac.
C'est pas du tout ce qui se passait avec Fanny, hein. Elle était très présente.
On laissera Fanny dire ce qu'elle en pense, mais je pense que Fanny, on verra, mais Fanny, vous nous direz ce que vous en pensez. Mais on sait très bien qu'on a ce problème-là, on veut montrer ce qu'on arrive à faire numériquement, mais on a aussi très peur qu'on me dise « vous le faites très bien numériquement ». Et très bien, on va développer ça à fond et vous ferez plus de présentiel et on supprimera des postes parce que grâce à vos écrans, vous pourrez faire avec plein de gens. Et en fait, ce problème d'ailleurs de l'innovation, c'est un discours qu'on entend, les profs, l'innovation permanente. Il faut innover, et ça peut très 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 bien aller avec le numérique dans le disruptif de la Startup Nation de Macron. Et d'ailleurs, c'est en continuité avec les mots de continuer, en contradiction, puisque je reste sur la contradiction, avec les mots de continuité pédagogique. En fait, encore contradiction, à la fois il faut innover, on est bien obligé, en même temps il faut faire de la continuité. Et résultat, qu'est-ce qu'on fait? On fait du bricolage, comme ça a été dit, je recite un pédagogique, un des mots qui a été cité. Et voilà, cette injonction contradictoire, on la retrouve aussi pour la question de la rentrée. Effectivement, déjà avec les mots du gouvernement, impératif d'un côté, volontariat de l'autre, c'est complètement contradictoire. Et injonction contradictoire, encore une fois, est-ce qu'il faut dire que le présentiel, c'est le plus important ou non, là, qu'on peut faire de la distance? Que l'enseignement, c'est fondamental, c'est un discours qu'on a envie de tenir en tant que prof. En même temps, là, on est dans une situation où on dirait que la santé psychique, psychologique doit passer d'abord. Encore une fois, injonction contradictoire. Et cette injonction contradictoire du discours, à mon avis, c'est très dur de s'en sortir d'avoir un discours de prof dans ces situations. Elle vient d'une situation impossible qui est elle-même contradictoire, puisqu'on sait bien, en tout cas, que pour certaines personnes, dans certains endroits, il faut que l'école reprenne, que ce soit pour les parents qui aillent travailler, mais même à des enfants, pour les enfants, pour des impératifs de sociabilité. Et en même temps, il faut absolument pas qu'elle reprenne pour à des moments des questions de santé. Et d'où, qu'est-ce qui fait le nœud de cette contradiction, à mon avis, et qu'on retrouve aussi dans vos discours? On va pas être original, hein, mais en même temps, je pense que les vraies questions se reposent tout le temps. C'est aussi la question des moyens, et elle se repose aussi bien pour la distance que pour le présentiel. Regardez, il faut quand même reparler un peu de ce numérique, parce que on a été tellement obligé de se saisir des outils numériques, et moi je le fais aussi bien sûr, que du coup, puis qu'on n'a pas d'outils numériques avec des logiciels libres ou proposés par l'école qui marche, qu'on est obligé de se précipiter sur YouTube, comme l'a raconté Fanny, de se précipiter sur Zoom, qui quand même, on le sait très bien, va vendre nos données. Mmh. Et on est, du coup, qu'est devenu le temps où, par exemple, on dénonçait l'accord passé entre l'éducation nationale et Microsoft comme un partenariat public-privé très problématique, où on se demandait est-ce que c'était un espèce de manière, de commencer à renoncer à la mission publique. Là, on a l'impression qu'on se les pose même plus, parce qu'on a tellement acté le fait que l'éducation nationale ne nous donne pas d'outils cohérents qu'on est obligé de se tourner vers les grands groupes. Et idem pour le présentiel, parce que un détail parmi d'autres, mais sur l'impossibilité de mettre en place toutes les mesures qui sont prononcées, quelque chose qui a été notamment souligné par des profs, c'est que par exemple on a de moins en moins d'agents techniques dans des lycées, et par exemple pour mettre en place certaines conditions de sécurité sanitaire, il faudrait cette présence des agents techniques, et ce qui fait tourner l'école, c'est pas juste les profs, mais c'est tout ça. Et donc finalement, où vient, à mon avis, la difficulté de vos discours, ça vient de cette injonction contradictoire-là, mais aussi du fait qu'on vous demande de tenir des discours qui ne sont pas de votre compétence, qui ne sont pas de votre échelle, mais celle de l'État. Plusieurs fois, d'ailleurs, vous avez dit « je ne peux pas me prononcer là-dessus ». On vous demande d'avoir des discours décisionnels sans avoir les capacités et les moyens de prendre ces décisions. Et je pense que le problème, c'est que l'État abandonne au moins en partie une de ses missions régaliennes, quand même, aussi bien du point de vue de la pratique à des grands groupes privés, par exemple, pour tout ce qui est numérique, que du point de vue décisionnel et du discours, à des collectivités et à des agents, les agents que vous êtes, par exemple.
Alors, juste un mot, elle a très bien résumé la situation d'injonction contradictoire dans laquelle vous êtes. Fanny Lenévez, est-ce que vous avez l'impression... Alors, je maintiens que moi, ce que j'ai vu de votre pratique pendant tout ce mois m'a paru innovant, créatif, et que dans ma bouche, évidemment, c'est positif. Mais est-ce que vous pouvez avoir l'impression qu'en est, finalement, en vous en étant sorti avec des solutions si séduisantes, il y a le danger que vous donniez un alibi à l'administration pour dire, finalement, peut-être qu'on peut faire la même chose avec moins d'instit, avec moins d'enseignants. Parce que moi, je dois dire, j'ai vu tout le contraire. Moi, dans votre exemple, j'ai vu que l'enseignant était indispensable.
Ouais. Oui, mais je t'attaque pas, Daniel. Alors, le discours peut être récupéré par différentes manières, mais on va laisser
c'est ça. C'est la question. La question pour moi, c'est effectivement ce que dit Laëlia, c'est la récupération de ce discours-là. C'est-à-dire que nous, évidemment, on le fait dans cette intention pédagogique, etc. Vous, vous le recevez comme ça, mais comment vont le recevoir comment va le recevoir l'institution? Parce que l'institution, depuis longtemps, elle nous demande de faire mieux avec moins. Hein, ça fait, on a des élèves, on a des effectifs qui sont très chargés. Voilà, on a déjà des problématiques où on nous dit, bah de toute façon, vous savez faire. Pendant longtemps, on nous a dit, oh bah enseigner, c'est faisable à 35, c'est faisable. Bah, moi en maternelle, je me sens pas concernée parce que c'est pas mes vidéos. On va pas dire, ah bah comme elle fait des vidéos, on va virer tous les instits de maternelle. Les enfants ont qu'à rester chez eux, regarder des vidéos. Évidemment, sur la maternelle, ça a pas tellement de sens. Mais est-ce que ça peut pas donner des idées sur les, notamment sur le primaire, voilà, nous on le vit, hein, notre formation elle est de plus en plus dématérialisée, notre propre formation continue d'enseignants, voilà, on se pose des questions.
Olivier Vincent, est-ce que vous pourriez aussi aller jusqu'à vous dire, bon alors, faudrait pas qu'on réussisse trop bien quand même grâce aux outils numériques, parce que ça pourrait donner des mauvaises idées.
Mais c'est une vraie situation contradictoire, c'est affreux comme
situation. Oui, absolument, mais en fait notre souci premier là, c'est d'apporter une réponse aux élèves, effectivement. Après vient le temps de la réflexion et de se dire quels sont les, voilà, est-ce que ces outils que je mobilise là, peut-être qu'ils vont être récupérés pour, voilà, peut-être cette période elle va servir de laboratoire. Je crois que l'essentiel aujourd'hui vraiment, c'est que l'institution comprenne que l'expertise professionnelle, l'intelligence des situations de terrain, ce sont évidemment les praticiens que nous sommes qui avons cette intelligence-là, en fait. Et que cet écart entre le prescrit, ces injonctions, et le réel, cet écart qui ne cesse finalement de s'accroître, hein, sous ce ministère, et ben voilà, cet écart-là, il devient vraiment pénible pour les équipes, en fait. On a sentiment d'un faible accompagnement sur le terrain, et c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui, en fait.
Et à mon sens, ça soulève une question qui est plus générale, qui est qu'est-ce que c'est l'école ? À
Bien
quoi
sûr.
Ça sert l'école ?
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on met derrière ? Qu'est-ce qu'on implique politiquement, philosophiquement, éthiquement autour de cette question de l'école ?
Bien sûr.
Et moi, j'aimerais bien que tout le monde s'en saisisse et qu'on puisse en parler entre parents, entre gens qui sont pas parents, entre enseignants, voilà, et qu'on arrive à se questionner ensemble sur qu'est-ce que c'est l'école, qu'est-ce qu'on en attend.
Et je trouve que tu as.
En quoi, Fanny Lenévez, en quoi le mois que nous venons de vivre modifie votre propre réponse à cette question fondamentale ?
Parce que là, par exemple, on nous dit il faut y aller à tout prix parce qu'il faut sauver l'économie. Est-ce que c'est ça l'école ? Est-ce que l'école, c'est la garderie ? Est-ce que c'est ça Alors, bien sûr que aussi on assure cette mission entre guillemets de garderie parce que de fait, on garde les enfants le temps où les parents sont à l'école. Mais au niveau politique,
au travail.
Au travail, pardon. Parce que moi, les miens vont à l'école pendant que moi, je vais à l'école. mais voilà, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on met derrière cette idée de l'école ?
Le mot garderie a une connotation négative, mais on sait bien qu'à l'école aussi, là où c'est important pour les enfants, c'est de recevoir des cours, des connaissances, mais aussi tout simplement d'avoir un lieu de sociabilité.
Bien sûr. Exactement.
Et c'est aussi pour ça qu'ils ont besoin d'y rentrer. Et c'est pour ça que c'est très important dans leur éducation, au sens très général du terme, bref, sur le mot école, sur le mot éducation, pour des jeunes enfants, par exemple, d'être en contact. Et moi, par exemple, quand je suis à la prison avec des adultes, c'est pas juste, bien sûr, les connaissances que j'apporte. Des fois, je prépare à des examens, des fois, pas du tout. C'est pour déjà recréer une sociabilité, hein, qui est mais c'est ça aussi, hein, différente de la cellule, pour recréer aussi, je sais pas comment dire, des discussions, des centres d'intérêt. Enfin, c'est à la fois beaucoup plus large que justement, et beaucoup plus beau d'une certaine manière comme mission que ce à quoi on nous réduit justement.
C'est la transmission de connaissances. Ouais.
C'est ça qui est très important, sur lequel on ne peut pas lâcher, mais il y a tout ce qui va autour de la transmission de connaissances. Et moi, mon problème avec les écrans, même si je me saisis de la continuité pédagogique numérique et que je le fais, c'est que c'est quand même si on essaie de recréer du vivre ensemble à des moments autour des écrans, et ben normalement notre transmission de connaissances va avec ce vivre ensemble, cette sociabilité, cette sociabilisation, et ça fait partie de notre métier.
Après, est-ce qu'il n'existe pas une sociabilité numérique ? Vaste question.
Il en existe une, on l'a vu, hein, même en faisant des cours en ligne, mais j'ai quand même pas envie qu'elle remplace tout, quoi.
C'est le maintien du lien. Pour moi, l'enjeu, ce qu'on fait à travers ça, c'est maintenir le lien. Tout à l'heure, vous disiez que je donnais des cours. Je donne pas tout à fait des cours. Moi, mon ambition, c'est de dire, je maintiens le lien avec mes élèves, je donne des idées aux parents parce qu'on sait à quel point c'est compliqué d'être à la maison avec des enfants petits, et puis on maintient ce lien. Et moi, ce que cette expérience, elle m'a apprise, si jamais j'en avais besoin, c'est à quel point je suis heureuse de faire ce métier, à quel point je suis attachée à mes élèves.
Hein, ouais, il me manque. Hein.
Et il me manque, mais terriblement. Et j'ai pas beaucoup pleuré depuis le début de tout ça. Et ben, j'ai beaucoup pleuré en pensant à mes élèves, en lisant des messages de parents, en voyant des photos. Hier, j'ai reçu une petite vidéo d'une petite fille qui m'a vue, qui me voit lire les histoires tous les jours aux enfants et qui a décidé elle aussi de lire une histoire à ses camarades. Elle a 4 ans. Ben voilà, je sais pourquoi je fais tout ça.
Bon, allez, on va arrêter avant de se mettre tous à pleurer. Merci.
Non, mais c'est vrai, c'est important de le dire. Non, mais je pourrais juste. Juste une dernière chose. Par exemple, ouais. Pour la prison, ce qui a été très dur, c'est que par exemple, le lien a été coupé très brutalement. Là, on a réussi à le rétablir en bricolant de manière bizarre. Mais cette rupture d'un coup, enfin, qui casse tout ce qu'on a essayé de tisser à long terme, l'école, c'est aussi du long terme, c'était effectivement difficile.
Merci à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. Merci, Laëlia,
merci.
Pour ton
merci
apport.
Merci
d'avoir suivi. À la semaine prochaine.